Il est 12h30 sur France Culture. C'est l'heure du journal avec Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour à tous. Quelle marge de négociation pour les élus locaux face à un gouvernement qui veut tailler dans leurs dépenses, réduire leurs recettes? C'est tout l'enjeu de la conférence des territoires qui s'est ouverte ce matin. Nous y serons dès le début de ce journal avec Christine Moncla. L'accès à l'université pour tous les bacheliers en question au ministère de l'Enseignement supérieur. La ministre Frédérique Vidal dénonce l'énorme gâchis du système APB d'admission post-bac. Elle lance une concertation pour imposer des prérequis aux étudiants dès la rentrée 2018. C'est un dossier suivi pour nous par Laure Verneau. Les pilotes d'Air France disent oui à plus de 78% au projet de création de la compagnie low-cost Boost dès cet hiver. Ils ont été rassurés sur une autre de leurs craintes, le déséquilibre au sein du groupe en faveur du néerlandais KLM. Explication à suivre d'Anne-Laure Chouin. Et puis l'opposition qui se redonne du souffle au Venezuela. Plus de 7 millions de participants au référendum qu'elle organisait hier pour contester le pouvoir de Nicolas Maduro. Est-ce que cela poussera les grandes puissances internationales à s'impliquer dans le dossier vénézuélien? Nous posons la question à Nabila Hamel. Et puis dans ce journal, nous irons également à Séoul où le nouveau président sud-coréen tend la main à Pyongyang. Il propose de relancer le dialogue entre les deux Corées. Dialogue interrompu depuis 2015, nous dira Louis Paligiano. Et c'est donc bien d'argent qu'il est question depuis ce matin à la première conférence des territoires. Bien au-delà de la taxe d'habitation, nous devons engager une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale. Voilà ce que précisait d'emblée le Premier ministre Édouard Philippe devant donc les associations d'élus réunies au Palais du Luxembourg depuis ce matin. Cette conférence des territoires voulue par Emmanuel Macron, elle devrait se réunir tous les semestres désormais avec un ordre du jour très clair, donc imposer dans la concertation des coupes budgétaires aux collectivités. L'équation a été posée assez clairement par le chef du gouvernement en ouverture des débats tout à l'heure.
Nous devons diminuer notre montant de dépenses publiques. Les collectivités territoriales doivent prendre leur part à cet effort, et cet effort sera globalement important. Plutôt que de parler directement et spontanément de baisse des dotations, nous devons essayer, et c'est un exercice délicat, de trouver un mécanisme assurant la baisse de la dépense publique, la baisse de l'endettement public, plus intelligemment que par l'imposition brutale d'une baisse des dotations. Mais entendons-nous bien, trouver un mécanisme de pilotage des dépenses publiques, y compris des dépenses publiques locales, plus intelligent que simplement une baisse des dotations, ne veut pas dire qu'on pourrait contourner l'objectif de baisse des dépenses. Il faudra que nous discutions en confiance, en transparence, pour mettre en place ces mécanismes qui nous permettront d'arriver à un objectif qui, lui, ne sera pas discutable.
Voilà, discuter pour arriver à quelque chose d'indiscutable, c'est bien la philosophie de cette conférence des territoires où nous retrouvons tout de suite Christine Moncla. Bonjour Christine.
Bonjour Camille.
Vous êtes donc au Sénat où vous suivez les discussions entre l'exécutif et les élus locaux. La question, on l'a vu, c'est celle de la marge de manœuvre qui est laissée aux élus face à l'indiscutable donc nécessité de couper dans leurs dépenses.
Et oui, ce mécanisme dont parle Édouard Philippe, c'est effectivement celui qui consistera à faire accepter à terme aux collectivités locales ces économies, ces 10 milliards d'euros réclamés par l'État. Dès lors, ce dialogue qui démarre aujourd'hui entre le gouvernement et les élus locaux ne pourra porter que sur les compensations accordées aux territoires, pas sur le principe même des réductions. L'État voudrait jouer sur l'épaisseur du millefeuille institutionnel et les effectifs, et il promet en échange des investissements dans le numérique notamment et des exonération. Or, on ne dialogue pas après avoir décidé, reproche cet élu Les Républicains en colère. Les collectivités locales ont déjà économisé 10 milliards ces dernières années. L'État et la Sécurité sociale, eux, sont loin de leur objectif de réduction, se plaint un autre. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a ouvert les travaux de cette conférence des territoires, est bien clair, il prévient, on ne part pas d'une page blanche en matière d'économie. Les élus locaux doivent être respectés. Ils ne sont pas des pions. Climat plutôt frais, donc, à l'amorce de ce dialogue. D'autant que ce matin, lors d'une première réunion technique au ministère de la Cohésion des Territoires, ce ne sont plus 10 milliards d'euros d'économies qui ont été évoqués, mais 10 à 13 milliards d'euros. Ce chiffre alimente encore davantage l'inquiétude ici, dans les couloirs feutrés du Sénat. Les discussions se déroulent à huis clos. La presse est soigneusement tenue à l'écart. Emmanuel Macron, lui, est attendu à 15h pour un discours. Il avait été sifflé pendant la campagne par les maires de France avec son annonce de suppression de la taxe d'habitation pour 8 foyers sur 10, sifflé puis finalement applaudi à la fin de son discours. Cette fois, la promesse est devenue réalité et Emmanuel Macron a promis entre-temps de la compenser à l'euro près.
Christine Moncla, merci à vous. Merci également à Laurent Lucas pour les moyens techniques depuis le palais du Luxembourg. L'heure est à la concertation également pour le gouvernement sur le dossier très urgent, cette fois de l'accès aux universités françaises. Une semaine après la fin des épreuves du bac, des dizaines de milliers de bacheliers ne savent toujours pas où ils pourront faire leur rentrée au mois de septembre. Naufrage du système APB pour admission post-bac, cet algorithme en charge du tirage au sort des étudiants selon leurs vœux d'orientation. Et cette vaste concertation donc lancée ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur. Bonjour Laure Verneau.
Bonjour.
La ministre donc Frédérique Vidal qui reçoit les recteurs d'académie, les syndicats et de professeurs et d'étudiants pour remettre à plat dès la rentrée prochaine le système de l'université pour tous.
Oui Camille, la situation est urgente. Vous l'avez dit, 87 000 étudiants sont actuellement sur liste d'attente à cause du manque de place dans la formation de leur choix. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, réagissait ce matin au micro de Pierre Veil sur France Inter.
C'est un énorme gâchis et que cette année, il est encore amplifié par le fait que la démographie étudiante a mis sur le système APB 40 000 étudiants de plus et que pour la première fois aussi, les étudiants en fin de première année qui souhaitaient se réorienter ont été aussi appelés à utiliser ce système.
Ce qui fait 150 000 étudiants supplémentaires à se réorienter via le système APB. Alors le problème, c'est qu'on sait déjà qu'il est complètement engorgé et que bien souvent, c'est le tirage au sort qui est utilisé, surtout pour les filières les plus demandées, comme la STAPS ou la première année de médecine. Il faut donc réformer d'urgence le système d'entrée à l'université.
On a trop tardé et on est face aujourd'hui à une situation qui est à la fois injuste et qui n'a strictement aucun sens. Le tirage au sort, c'est fini en 2018, je m'y suis engagée, oui.
La ministre de l'Enseignement supérieur qui s'engage donc, Laure Verneau, elle s'est engagée à quoi au juste ?
Alors ça ressemblerait à un contrat appelé contrat de réussite que la ministre souhaite très personnalisé avec des prérequis à cocher pour que l'élève puisse aller là où il veut. Alors pour le moment, tout est encore assez flou puisque c'est la concertation de cet après-midi qui doit décider des tenants et des aboutissants de ce contrat. La chose qui est sûre, c'est que l'orientation devrait se faire bien plus en amont, dès le début du lycée. Aujourd'hui, seulement 27% des élèves bouclent leur licence sans redoubler. Les autres échouent en grande partie par manque d'informations, sans savoir à quoi s'attendre pendant le cursus. L'autre question, c'est comment définir les fameux prérequis de ces contrats de réussite qui inquiètent les syndicats étudiants. Est-ce que ces prérequis seront contraignants ? Faudra-t-il par exemple avoir obligatoirement une mention très bien au bac S pour intégrer une première année de médecine ? Est-ce qu'il s'agit d'une sélection cachée de la part des présidents d'université? Les concertations devraient en tout cas aboutir à un accord final au mois d'octobre.
Laure Verneau, donc, que vous suivez ce dossier pour nous. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, sur France Culture. Une très forte participation et les pilotes d'Air France qui approuvent à plus de 78% le plan stratégique de leur direction. Voilà le résultat d'une consultation qui avait été lancée auprès des pilotes du groupe par leur syndicat majoritaire, le SNPL. C'est donc le oui qui l'emporte et ça ressemble bien à une autorisation de décollage pour Boost, cette nouvelle filiale low cost sur certains vols longs et moyens courriers, une compagnie qui devrait voir le jour dès l'hiver prochain. Sauf que Boost, eh bien, c'était loin d'être la seule pomme de discorde entre le syndicat et la direction de leur choix.
Oui, la création de cette filiale low cost avait fait grincer des dents au départ, mais les négociations ont abouti à un accord acceptable pour tous et notamment les pilotes, puisque ceux qui choisiront d'aller travailler pour Boost le feront aux mêmes conditions que chez Air France. L'accord prévoit aussi des efforts de productivité, notamment 12 jours de repos en moins pour les pilotes. Et puis les personnels navigants, eux, seront recrutés pour Boost dans des conditions moins favorables que pour Air France, mais approuvées par deux syndicats de PNC sur trois. La création de Boost est donc validée. Les premiers vols pourraient bien se faire dès le mois d'octobre prochain, mais vous l'avez noté, il y avait d'autres points qui gênaient les pilotes dans ce projet global nommé Trust Together, la confiance retrouvée, notamment celui concernant le rééquilibrage de l'activité d'Air France sur celle de KLM. Air France, qui connaît des difficultés financières, a en effet perdu d'importantes parts de marché au profit de sa partenaire et néanmoins concurrente hollandaise KLM, qui profite, elle, de conditions économiques plus favorables, redevances aéroportuaires et taxes notamment beaucoup moins élevées. Or, l'accord prévoit qu'Air France retrouve ses parts de marché perdues d'ici à 2022, avec des pénalités financières si ça n'est pas le cas, des modalités qui n'étaient pas inscrites dans l'accord initial et que les pilotes se sont battus pour faire figurer. Alors si ce matin le SNPL fait bonne figure en se félicitant de l'issue du scrutin, on rappelle qu'il avait aussi appelé les pilotes à voter pour un projet alternatif qui n'a reçu ce projet que 16% des suffrages. Par ailleurs, la direction avait été claire, même si le projet avait été rejeté, il aurait quand même été mis en place sur d'autres bases. Le oui, largement majoritaire, évite donc une nouvelle crise.
Anne-Laure Chouin, merci à vous. Des nouvelles d'un autre mastodonte de l'économie française. Elles sont bonnes, ces nouvelles, pour Renault, qui affiche 1,9 million de véhicules vendus au premier semestre 2017 à travers le monde, des ventes en hausse de plus de 10% qui sont portées, entre autres, comme pour le concurrent PSA, par la reprise du commerce avec l'Iran. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont participé hier au référendum organisé par l'opposition au président Nicolas Maduro. Il s'agissait de dire son refus de l'Assemblée constituante, une assemblée voulue par le régime chaviste. Il s'agissait également d'exiger le départ du président Maduro. On ne connaît pas encore dans le détail les résultats de ce référendum qui n'a donc rien d'officiel. Mais c'est clairement une victoire pour l'opposition, mobilisée, on le sait, depuis des semaines et qui fait face à une répression violente. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
L'opposition vénézuélienne qui veut croire qu'elle tient enfin le moyen de porter le coup de grâce au pouvoir de Nicolas Maduro, mais reste encore à savoir sur quel soutien international elle va pouvoir compter.
Oui, la consultation d'hier a été soutenue par l'Organisation des États américains, l'OEA, donc par les voisins du Venezuela, par les États-Unis, par plusieurs gouvernements européens, mais il s'agit maintenant de voir comment ils pourraient faire entendre raison ou faire pression sur le président Maduro, décidé à maintenir l'élection le 30 juillet d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante putschiste, selon l'un des 5 présidents latino-américains, dont ceux du Mexique et de Colombie, qui sont venus en tant qu'observateurs de ce scrutin. Alors, un scrutin dont le président, dont le successeur, Hugo Chavez, a pris acte, certes, en le qualifiant d'interne à l'opposition. Il a demandé d'ailleurs à cette opposition de se calmer, de ne pas perdre la tête et de venir s'asseoir pour discuter. Les anti-Maduro, eux, ne comptent pas en rester là, d'où un rapport de force qui risque de se durcir après plus de 3 mois de manifestations violentes. Le vote d'hier a remonté leur morale. L'opposition annonce d'ores et déjà que l'acte de désobéissance civile sera suivi d'un événement baptisé Heure H, qui pourrait être le point de départ d'une nouvelle grève nationale. Les résultats d'hier ont montré que plus de 98% des votants ont répondu par l'affirmative aux questions posées, rejet de la constituante, obligation pour les forces armées de respecter la constitution actuelle et soutien à des élections en vue d'un gouvernement d'union nationale. Près d'un quart de la population du Venezuela a participé au scrutin. C'est une participation qui se rapproche sensiblement des 7,7 millions de suffrages qui avaient permis à l'opposition de remporter la majorité aux dernières législatives de décembre 2015, avant que ce Parlement ne soit contourné depuis par le pouvoir.
Nabila Hamel, merci à vous. À Bruxelles, à présent, nous entrons dans le vif du sujet. C'est ce que déclarait tout à l'heure le Britannique David Davis, qui rencontre en ce moment donc le médiateur européen négociateur du Brexit, Michel Barnier. Première session de discussion donc sur les modalités pratiques de la sortie de l'Union du Royaume-Uni. Discussions qui vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre journal de 18h. Les civils sont plus que jamais les premières victimes de la violence omniprésente en Afghanistan. La mission onusienne dans le pays dévoilait ce matin le nombre de morts depuis le début de l'année et il est en hausse par rapport au précédent semestre. 1662 civils ont été tués, 3581 blessés, principalement par des attaques suicides. Signe donc que le conflit entre les talibans, Daesh et les autorités afghanes se durcit encore. Signe également que ce conflit s'étend géographiquement, plus seulement dans le sud et la capitale Kaboul, mais désormais dans 15 des 34 provinces d'Afghanistan. Les tensions ne retombent pas vraiment autour de l'esplanade des mosquée à Jérusalem, le lieu saint des juifs et des musulmans, a rouvert ses portes hier après avoir été fermé pour raison de sécurité par les Israéliens. Mais les autorités de Tel Aviv ont installé des détecteurs de métaux à l'entrée du site. Les Jordaniens, qui sont chargés de la sécurité de l'esplanade, appellent les fidèles musulmans à refuser ces contrôles, à ne pas se rendre sur les lieux donc tant que les portiques seront en place. Une main tendue entre les deux Corées. Le ton change au sud avec le nouveau président Moon Jae-in qui propose de lancer des discussions d'unification avec la Corée du Nord. Tentative de faire baisser la pression après le dernier tir réussi par Pyongyang, tir d'un missile intercontinental, c'était au début du mois de juillet. Le Sud propose donc au Nord de dialoguer à nouveau sur la question en particulier des villages frontaliers. C'est une correspondance depuis Séoul de Louis Paligiano.
Le vice-ministre sud-coréen de la Défense a demandé au régime de Kim Jong-un d'organiser une rencontre bilatérale ce vendredi au village de la Trêve de Panmunjom, situé à cheval sur la frontière entre les deux Corées. Cette proposition s'inscrit dans le sillage de la politique de la main tendue de Moon Jae-in, qui prône la relance des échanges intercoréens afin d'endiguer les provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang. Si la Corée du Nord accepte cette discussion, ce sera la première du genre depuis octobre 2014. Séoul en profitera pour demander de cesser la diffusion de messages de propagande via des haut-parleurs installés sur la frontière. Et de son côté, Pyongyang réclamera l'arrêt des lâchers de tracts dénonçant son régime. Ces pourparlers destinés à stopper toutes les activités hostiles qui exacerbent les tensions autour de la ligne de démarcation militaire pourraient bien avoir lieu car la Corée du Nord insiste de manière répétée sur la suspension de toute provocation dans la zone démilitarisée ou DMZ. En effet, ces activités hostiles désignent notamment la diffusion de messages de propagande vers le Nord et le lancement de tracts dénonçant le régime de Kim Jong-un, une propagande sur laquelle repose en grande partie le leader nord-coréen, mais qui pourrait aussi constituer son talon d'Achille.
Louis Paligiano en Corée du Sud pour France Culture. Le temps, enfin, une belle après-midi estivale sur tout l'Hexagone, avec un ciel à peine voilé de la Bretagne à l'Alsace, grand soleil partout ailleurs, des températures qui affichent de 24 degrés sur les côtes de la Manche à 29 à Paris et sur les Alpes, 32 degrés pour le centre, jusqu'à 35 voire 36 degrés sur l'Aquitaine. Ce journal était réalisé par Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h pour une prochaine édition.